Quelles sont les limites de l'horaire de travail dans le milieu culturel? Quelles sont les limites et les compensations pour le travail de nuit? Comment gérer la question du travail supplémentaire ou bien des heures supplémentaires? Comment et quand accorder des vacances? Et les indépendants et indépendantes dans tout ça, ont-ils et elles les mêmes droits que les professionnels du spectacle salarié? Dans un contexte où la crise due à la pandémie de Covid-19 a mis en lumière la fragilité, la précarité qui constituent malheureusement trop souvent la norme dans la culture, il est bon de faire le point sur certaines bases légales applicables au spectacle vivant en droit suisse. Vous écoutez De la santé au travail en milieu culturel, un podcast coproduit par FCMA, Artos, Pezzi et Sonart, quatre acteurs culturels majeurs des professions du spectacle en Suisse romande associés autour d'un programme commun poursuivi tout au long de l'année 2021. En jeu, en cinq sessions organisées dans des salles de concert de Vevey et Neuchâtel, de Fribourg et Genève, identifier, comprendre et anticiper les problèmes liés à la santé rencontrés par les professionnels du spectacle dans notre territoire. Pour son quatrième rendez-vous, ce programme s'installait le temps d'une soirée à l'Amalgame d'Yverdon-les-Bains. Le mardi 7 septembre, la salle de concert y recevait Anne Papillou, secrétaire générale du syndicat suisse romand du spectacle, et Patrick Mangold, avocat spécialisé en droit du travail et artiste en spectacle vivant, déjà rencontré dans le troisième épisode de ce podcast, enregistré lui à Fribourg. Résumé de cette soirée en compagnie de ces deux amoureux du droit, où il était question de protection de la santé des employés dans le milieu de la culture. De la santé au travail, en milieu culturel, épisode numéro 4. À toutes et tous, bienvenue dans ce podcast présenté, rappelons-le, par FCMA, Artos, Pezzi et Sonart, réalisation Chahut Média. Amalgame, Yverdon, Anne Papillot et Patrick Mangold. Patrick, on s'est parlé il y a quelques mois. Anne, ravie de la rencontre. Qu'est-ce qui vous réunit tous les deux? Le point de jonction, c'est quoi ce soir entre vous?
L'amour du droit et du spectacle.
L'amour du droit, je ne sais pas. En tout cas, la conviction que le droit est utile dans le milieu du spectacle notamment. Et dans le milieu du spectacle pour ce qui nous réunit. Et puis, depuis des années maintenant, des formations qu'on a beaucoup de plaisir à donner ensemble, une complémentarité dans ce que je pense on peut apporter aux personnes qui nous contactent.
Et puis en plus, en dehors des formations, on a une grande pratique de travailler sur des dossiers ensemble aussi. Donc ça veut dire qu'on a une grande pratique du terrain, on échange sur les dossiers. Moi, quand j'ai un dossier difficile, je le consulte toujours. Donc c'est vrai que c'est des années de collaboration, en dehors même des formations.
Et puis dans le contexte, par exemple, Covid, c'est des actions politico-juridiques, on va dire aussi, pour faire en sorte que la situation des artistes s'améliore. Donc, vraiment, voilà.
L'intitulé de ce soir, protection de la santé des employés dans le milieu culturel, ça rappelle ce qu'on avait déjà posé, en partie, notamment à Fribourg. On va plus loin?
C'est pas qu'on va plus loin, mais c'est plus large. C'est-à-dire qu'à Fribourg, on évoquait spécifiquement la protection de la personnalité, avec l'interdiction du harcèlement, qui était vraiment centré là-dessus. Ici, on va aborder la question de la protection de la santé de façon assez large, en particulier sous l'angle du droit public, l'application de la loi sur le travail, des questions d'horaire, des questions de repos, notamment, ce sont des exemples. Mais au fond, on va l'appréhender de façon plus large que ce qu'on avait vu à Fribourg. En plus, j'étais pas le seul à présenter, il y avait aussi une présentation sur le sexisme, voilà.
Les limites de l'horaire de travail dans le milieu culturel, pourquoi ça pose problème?
En fait, les limites de l'horaire de travail, je pense, en tant que telle, ça ne pose pas vraiment problème. Mais c'est vrai que la première chose que je peux peut-être rappeler, puisque je suis aussi présidente de la fondation qui gère l'assurance accident et maladie pour les milieux culturels, on a un secteur où il y a une sinistralité très forte. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un taux de maladie et d'accident assez fort par rapport aux autres secteurs. Et c'est notamment par le fait que les limites des horaires de travail et de la durée du travail ne sont pas toujours respectées, notamment pour certains métiers, comme notamment les métiers techniques.
Ouais, donc il y a une grande, par rapport à la question de problèmes que ça pose, Il y a des spécificités, une irrégularité du travail de nuit, du soir, qui rend, au fond, cette question assez complexe dans son application. Après, comme d'autres secteurs, dans le secteur médical, c'est très compliqué aussi. C'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne doit pas l'appliquer, mais il y a des difficultés, ça demande à être pensé.
Puis avec une difficulté supplémentaire, on se coupe tout le temps la parole, on se rebondit, c'est que nous, on est dans un secteur où il n'y a pratiquement que des gens qui sont en situation de pluriactivité. Ils ont des employeurs multiples. Aucun employeur, quasiment, est à même de contrôler à lui tout seul que la loi sur le travail est respectée parce qu'il ignore ce que fait la personne avec qui il travaille le reste du temps.
Or, les normes de la loi sur le travail s'appliquent de façon absolue et générale, c'est-à-dire qu'on va se placer du point de vue du salarié ou de la salariée et s'assurer que les maxima LTR de la loi sur le travail sont respectés. Et donc, un employeur pourrait être très bien intentionné, prévoir des règles de façon très stricte, mais ça, potentiellement, on pourrait quand même sortir du cadre. Donc ça complique considérablement les choses.
Anne et Patrick, vous insistez beaucoup tous les deux sur un point, c'est de demander de qui on parle, à qui la protection s'applique. Votre réponse, le ou la salarié.
Et puis c'est vrai qu'on peut se penser indépendant parce que philosophiquement on est indépendant dans son travail, mais la signification du mot indépendant versus salarié ou travailleuse-travailleur est vraiment quelque chose de très précis qu'on ne choisit pas d'être. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de contraintes à décider d'être l'un ou l'autre. Et donc il y a des critères qui sont très importants à comprendre pour déterminer qui on est là-dedans, et les conséquences sont énormes, en fait, puisque toutes les protections s'appliquent aux salariés, aux travailleuses et travailleurs, pas aux indépendants. Donc la détermination, il y a d'autres conséquences, la détermination de ça, elle est capitale.
Mais est-ce qu'il y a plus de fragilité chez l'un ou l'autre statut, employé eux ou indépendant?
Disons, à mon avis, sauf si on a vraiment de très gros revenus, où là, je pense qu'objectivement, le statut d'indépendant est plus avantageux, parce que il permet, disons, des avantages fiscaux importants, puis on peut s'auto-assurer pour les problèmes. Autrement, c'est clair que le statut de salarié est beaucoup plus protecteur.
À plusieurs niveaux, il est plus protecteur. Alors déjà, les cotisations sociales sont payées paritairement. Toutes les protections horaires, encore une fois, ne s'appliquent que pour les travailleuses et travailleurs. Il y a le droit aux vacances, les heures supplémentaires, le travail supplémentaire... Et rémunéré ou compensé.
Donc ne plaignent pas le spectre d'une forme de précarité ou de possible précarité?
Les indépendants sont beaucoup plus précaires, sauf ceux qui gagnent bien leur vie. Mais évidemment, ils ne sont pas très nombreux dans notre domaine, mais il y en a quand même. Mais c'est vrai que les indépendants sont plus précaires, ce qui ne veut pas dire que les salariés ne sont pas précaires. On est un peu dans le... On gère la précarité dans notre secteur. Et c'est vrai que dans notre secteur, vraiment, je pense à 99%, il vaut mieux être salarié qu'indépendant.
La crise du Covid a accéléré ce phénomène, cette précarisation des métiers du spectacle?
Oui, je pense que ça a mis en lumière des choses qui existaient déjà. Et typiquement, par rapport aux indépendants, on a vu des chiffres affolants d'indemnités journalières à hauteur de 6 francs par jour, par exemple, ces choses qui sont sorties dans les médias. Il y a une explication à tout ça, c'est-à-dire que dans un secteur précaire, l'indépendant va avoir un intérêt à annoncer le moins de revenus possible pour avoir le plus de cash à la fin du mois, donc pour simplement subvenir à ses besoins. Mais en période où il y a une impossibilité de travailler et donc ce sont des prestations sociales qui sont versées, elles sont calculées sur les revenus annoncés. Et quand le revenu annoncé est très bas, les montants qui sont versés sont très bas. Donc ça, je pense que ça a mis en lumière un phénomène. Ce n'est pas une recherche de tromperie, hein, de contourner le système. C'est au fond une façon d'utiliser le système pour être un peu moins précaire. Donc oui, ça a mis en lumière une précarité.
Mis en lumière cette précarité, mais est-ce que ça a pour autant accéléré la capacité de dialogue avec les autorités?
Moi, je pense que dans notre secteur, bizarrement, parce que tout ce qu'a dit Patrick est vrai, et dans le fond, ça a mis en lumière la précarité des indépendants et indépendantes. Point en Suisse, pas seulement dans notre secteur, c'est l'ensemble des indépendants et des indépendantes qui se sont retrouvés, d'ailleurs comme les petits entrepreneurs, je pense à tous les petits patrons d'entreprise ou de bistrot qui avaient juste une petite entreprise avec pas vraiment les reins solides financièrement. Donc en fait, tout le système, on voit que c'est un système de beau temps qu'on a, mais par mauvais temps, ça ne marche pas. Après, le dialogue avec les autorités, je pense que dans notre cas particulier, il y a un aspect compliqué, c'est que dans le fond, l'Office fédéral de la culture est souvent en conflit avec les associations professionnelles. Enfin, il n'est pas d'accord, par exemple, sur la question du revenu inconditionnel qui a été lancé par la ville, le canton de Zurich. L'Office fédéral de la culture s'est opposé vraiment très fortement à ce projet qui était soutenu par l'ensemble des associations. En fait, dans les aides Covid qui avaient été développées par la Confédération, donc les gens devaient déposer un dossier, chiffrer le montant des aides, puis le canton de Zurich, compte tenu du nombre de dossiers qu'ils avaient, a proposé le versement d'une aide forfaitaire pendant la durée de la crise. Je ne me rappelle plus du chiffre, un peu moins de 4 000, effectivement 3 800 dans mon souvenir, mais... Et dans le fond, ils ont expliqué qu'à la fois, c'était un gain de temps et une économie d'énergie énorme pour le canton, plutôt que de devoir traiter chaque dossier. Et puis, c'était aussi beaucoup moins dévalorisant pour les gens qui ne devaient pas sortir tous leurs tickets, faire une demande. Et l'Office fédéral de la culture s'est opposé au motif que ça ressemblait trop à un revenu inconditionnel pour les artistes. Et en fait, nous, on soutenait avec d'autres associations ce projet. Et puis, c'est dans le fond... Je pense beaucoup parce que l'Office fédéral de la culture s'est battu contre qu'il n'a pas pu exister avec l'argent de la Confédération.
Vous écoutez De la santé au travail en milieu culturel, quatrième épisode de notre série podcast enregistrée à l'Amalgame d'Yverdon et ici consacrée à la protection de la santé des employés dans le milieu de la culture. Nos invités, Anne Papillou, secrétaire générale du syndicat suisse roman du spectacle, et Patrick Mangold, avocat spécialisé en droit du travail et artiste en spectacle vivant. En question avec eux, travail supplémentaire et heures supplémentaires, ou quand et comment accorder des vacances dans un milieu fait de micro-entreprises constamment en manque d'effectifs, travaillant à flux tendu et où les burn-out se multiplient.
On est un peu dans le même genre de problématique qui a été abordée tout à l'heure par rapport au travail de nuit. C'est au fond la difficulté à gérer ce genre de situation avec des horaires irréguliers, des périodes très intensives de travail durant quand on arrive avant un concert ou une représentation. Et puis comment on arrive à garantir quand même des temps de repos. Que les heures supplémentaires soient, si elles existent, qu'elles soient limitées, la compensation suffisamment rapidement après. La gestion des vacances, la même chose, hein, comment on les organise, surtout sur des périodes contractuelles très courtes. Il y a aussi quand même cette question, un risque de s'imaginer qu'au fond, les vacances, sur des contrats très courts, on n'a pas le temps de prendre des vacances en nature, donc on va systématiquement les payer, mais avec le risque que des gens ne prennent jamais de vacances. Donc ça va pas. Donc de quelle façon est-ce qu'on organise ? Donc voilà, les règles sont posées de façon relativement claire. Ouais, enfin, claire, c'est peut-être un peu vite dit, mais en tout cas, elles existent. Mais après, c'est leur application pratique dans des secteurs où on n'a pas forcément l'habitude de se questionner là-dessus que c'est problématique.
Puis je pense qu'il y a un aspect supplémentaire. Je discutais l'autre jour avec une administratrice qui était en arrêt maladie depuis plusieurs semaines parce qu'elle est en ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement professionnel. Et il y en a énormément, hein. Le fait qu'on soit dans un secteur où il n'y a que des micro-entreprises, c'est un problème supplémentaire. Parce que concrètement, quand moi je prends mes vacances, personne ne me remplace. Il n'y a pas un collègue ou une collègue qui assure un peu le... Et on est beaucoup dans ces micro-entreprises. Ça veut dire que beaucoup de gens font trop d'heures, repoussent le moment où ils prennent des vacances, ne prennent pas des vacances complètement, mais traitent quand même un peu leur mail 2 heures par jour parce qu'on est sans arrêt en manque d'effectifs, parce qu'on est dans des trop petites entreprises. Et ça complique beaucoup, je pense, ça péjore beaucoup la question de la santé, sécurité au travail, parce qu'on n'a jamais la possibilité de complètement décrocher. C'est une réalité pour beaucoup de gens, en fait. Ils ne peuvent pas.
Est-ce que de l'autre côté de la chaîne, après, on met peut-être un pied ou un bout de pied dans un terrain sociologique, qui est l'accélération de cette pression mise sur l'employé ou même l'indépendant qui doit décocher son téléphone dès l'heure qu'il sonne ou répondre à un mail dans l'heure? On est rentré quand même dans une sorte de pression systématique auprès de qui travaille, devoir de rendement ou de performance, en tout cas d'être joignable en permanence, vacances ou pas finalement.
C'est vrai, mais je pense que dans notre secteur, ça concerne vraiment le secteur administratif. Oui. Par exemple, cette pression-là, elle ne s'exerce pas de la même façon sur les interprètes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pression. Mais par contre, pour le secteur administratif, c'est totalement vrai. Et ça s'ajoute au fait que comme c'est des micro-entreprises, non seulement on doit répondre au téléphone n'importe quand, mais en plus, si par hasard, on veut prendre une journée de congé, eh ben, on n'a personne qui répond à notre place et on retrouve tous les SMS, WhatsApp, mail, Messenger et autres le lendemain matin.
Il y a aussi une problématique, c'est qu'on est, comme tu disais, on est dans des micro-entreprises qui sont à flux tendu au niveau économique. Donc en réalité, parfois on devrait se dire mais il faudrait engager plus de monde parce que parce qu'il y a des fonctions qui peuvent pas être assurées par une personne. Mais on n'a pas l'argent et on est tributaire au fond de l'extérieur et comme ça doit quand même tourner, ben on fait avec ce qu'on a et du coup ça précarise la situation des personnes qui travaillent.
Mais Anne posait un mot, enfin en tout cas une formule effroyable il y a un instant, disant qu'il y a de plus en plus de gens dans le milieu de la culture ou du spectacle qui tombent en burn-out ou qui connaissent un burn-out une fois dans leur carrière minimum. Et on est trois autour de cette table, je pense que tout le monde peut en compter au moins 5-6 facilement. On est évidemment dans une sorte d'anormalité et pourtant ça devient un standard dans cette industrie.
Moi, c'est un standard, d'abord, il faut le savoir, dans la société en général, puisqu'aujourd'hui, dans les assurances maladie perte de gain, ou d'ailleurs, comme les caisses de pension qui ont des statistiques sur les causes de maladies de longue durée, les maladies psychiques, c'est-à-dire les burn-out, épuisement, c'est la principale cause des absences de longue durée. Donc, c'est quelque chose qui est systémique, effectivement, mais qui s'applique aussi dans notre secteur. Alors, peut-être qu'on est un secteur relativement protégé jusque-là de ce type de pression, c'est vrai. Et que maintenant, par contre, on prend la vague de plein fouet. Et comme le disait Patrick, c'est accentué par le fait qu'aucune de ces micro-entreprises a de quoi engager le personnel qu'il lui faudrait réellement. Et je pense que c'est aussi accentué par une chose, c'est qu'on est dans des métiers qu'on appelle vocationnels. Ça veut dire que tout le monde, comme le journalisme, comme certains métiers scientifiques, les chercheurs, tout le monde croit en son métier. Et souvent, je dois rappeler aux gens quand je les ai au téléphone que le premier but d'un emploi salarié, c'est de ramener un salaire. C'est pas le plaisir, et en plus, c'est cool, je suis payé.
Votre disque d'or, votre Aline à tous les deux, est-ce qu'il y aura un autre, votre Get Satisfaction, quelque chose? Droit suisse pour le spectacle vivant, qui est un cours que vous allez relancer en 2022. J'ai vu ça sur la plateforme Artos, qui est partenaire d'ailleurs de ce podcast. Vous enseignez les bases légales applicables au spectacle vivant en droit suisse. Le manque continue d'être criant depuis que vous menez ce cours tous les deux?
Mais en fait, je pense, le manque continue d'être criant. Alors, il y a une très forte professionnalisation du secteur culturel de façon... Enfin, je devrais pas dire professionnalisation. Sur ces aspects, parce que c'était des professionnels déjà avant, ils savaient faire leur métier. Simplement, on avait moins d'exigences, sans doute, par rapport, par exemple, aux aspects légaux. Mais d'abord, le secteur est vaste. Et puis ensuite, ça ne fonctionne pas de façon uniforme dans tous les secteurs, ni dans tous les cantons. Et en plus, c'est un secteur où il y a un turnover énorme. Ça veut dire que les gens qu'on a formés il y a quelques années, aujourd'hui, ils bossent peut-être plus du tout dans le secteur de la culture. Il y a un renouvellement énorme. Donc ce cours, il est vraiment nécessaire. Il sera nécessaire tout le temps.
Oui, et puis c'est quand même un domaine complexe. Donc on va forcément, même des gens qui ont déjà suivi, vont être en demande d'avoir de l'apport sur certains sujets. C'est une journée, hein. Et en une journée, on peut l'aborder, mais assez rapidement quand même. Le spectre est assez large. Et c'est un domaine complexe. C'est un domaine professionnel. Il y a des questions complexes là-dedans sur lesquelles on va entrer. Donc c'est normal aussi que ces formations existent. C'est vraiment une très bonne chose. Je pense que c'est aussi normal, je dirais. Et ça devrait être fait partout, au fond de tous les secteurs. Quand on parle de ressources humaines... D'amener des formations en droit du travail, aux ressources humaines par exemple, c'est toujours très utile.
Et Patrick Hahn, ce cours a dû être réactualisé depuis, disons, les 18 derniers mois et la crise Covid.
Mais c'est pas qu'il est... la base reste la même et nous, on a aussi toujours à cœur de venir avec les problématiques du moment. Donc au fond, c'est comment venir avec ces problématiques-là, les insérer dans les questions globales qui sont posées. Et on va aussi toujours être à l'écoute des problématiques qui sont amenées par les gens qui sont là, qui sont peut-être spécifiques.
C'est vrai que les bases légales n'ont pas changé, mais par exemple, par rapport à la question de santé-sécurité, les questions qui reviennent le plus souvent aujourd'hui que j'ai, c'est est-ce que j'ai le droit d'exiger de mes salariés qu'ils soient vaccinés? Est-ce que je peux leur demander leur... Évidemment, c'est des problématiques qui n'existaient même pas il y a 2 ans. mais elle s'insère dans un cadre légal qui est le même.
Oui, on est en plein dans cette question, dans la question d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, de la protection de la santé. C'est une forme de tension. Alors, en général, les choses vont ensemble entre la protection de la santé d'un côté et puis la protection de la sphère privée qui fait partie de la protection de la personnalité. Et comment on arrive à préserver la sphère privée tout en protégeant l'intégralité de son personnel? C'est compliqué, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Sur quoi on va manger un petit bout? Et ça pose des questions philosophico-juridiques qui n'ont pas fini de nous animer. Hein.
Tu vois qu'on aime le droit.
Oui, t'as raison.
Anne Papillou et Patrick Mongold étaient les invités de ce 4e épisode de la série podcast De la santé au travail en milieu culturel, un programme produit par FCMA, Arthos, Petzi et Sonart dans le cadre du cycle de conférences Santé au travail, réalisation Chahut Media et la musique, et signé Nick von Frankenberg. Prochaine et ultime halte du programme Santé au travail, ce sera le 12 octobre prochain entre 18 et 21h au foyer de l'Alhambra à Genève en compagnie de Julien Jobert alias Schkid, producteur et musicien cofondateur du collectif Cura, et de Catherine Vazet, psychologue et gestalt-thérapeute spécialiste du burn-out. Il sera question de santé mentale, prévention et bien-être, soit comprendre les mécanismes qui portent atteinte à notre santé au travail et partager des solutions pour nous protéger. Plus d'informations sur le programme Santé au travail sur les sites internet de FCMA, Arthos, Petzi et Sonart. Ce podcast, quant à lui, se découvre également sur l'ensemble des plateformes de podcast, iTunes, Spotify, Deezer et beaucoup d'autres. On vous dit à bientôt pour le 5e épisode de ce programme.